Vous y êtes pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure, voici Victor. Salut Victor.
Bonsoir.
Nous rejoindrons également Anne-Marie pour sa chronique économie et le duo de sportifs Charlotte et Julien pour le débrief du week-end. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Actualité oblige, voilà le billet d'humeur de Victor qui s'est trompé dans ses pronostics la semaine dernière.
Ouais, je sais, mes pronostics affichés la semaine dernière étaient faux. Mais laissez-moi au moins m'expliquer quelques minutes. Alors que lundi dernier, je mettais en avant à la fin de ma chronique l'idée d'une réélection de Béatz, j'avais oublié deux choses. D'abord le contexte national très défavorable à la gauche, mais aussi le fait qu'à une semaine du second scrutin, rien n'est joué. Pendant cet entre-deux-tours, nous avons vu deux débats, le premier au Chabada et le second au Quai, auquel d'ailleurs je me trouvais. Le premier débat, organisé par Angers Mag, Angers Télé et Le Courrier de l'Ouest, ne comportait presque rien d'impressionnant. Débat politique local concernant le tramway, les rives de Maine, etc. Mais à la fin, lors d'une question de face-à-face, c'est là que les choses se sont retournées. Béchu sort une lettre envoyée par Béatz aux abstentionnistes. Une lettre qui a pour but d'effrayer les électeurs sur la politique qui serait menée par le candidat UMP s'il était élu, et par conséquent solliciter leur vote. Le débat qui avait commencé avec courtoisie se termine sur cette interrogation de Béchu. Comment avez-vous pu signer ce tract? Cela ne vous ressemble pas. Le lendemain, rebelote. Le débat organisé par France 3 Région recommence toujours sur les mêmes thématiques. Le tramway, prison d'Angers, les rives de Maine, etc. Mais voilà, ce fameux courrier aux abstentionnistes revient sur le tapis. Enfin, devrais-je dire plutôt le round, le tatami. Face à cela, Béchu sort un nouveau courrier, à croire que celui-ci travaille chez La Poste. Oui, mais voilà, ce coup-ci, c'est un mail, et pas de n'importe qui, de Roturo. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ont loupé la saison 1, Roturo, c'est le candidat dissident de la gauche qui s'est retiré pour le second tour. Dans ce courriel, lu par Béchu en intronisant la surprise totale au Quai d'Angers, on apprend que Roturo condamne les pratiques politiques du maire sortant, et plus précisément, cette lettre aux abstentionnistes. Plus grave pour M. Béatz, celui-ci accepte que ce mail soit lu par Béchu. Et voilà que notre nouveau maire d'Angers fait des envolées lyriques sur la fonction d'un maire qui doit être rassembleur et non diviseur. Discours qui provoque des applaudissements dans la salle. Et voilà une belle leçon de politique. Premièrement, lorsque l'on se fait attaquer par son adversaire, il faut utiliser la technique d'un attaquant italien jetant par terre en criant « Allô maman Bobo !» Ensuite, pactiser avec l'ennemi de son ennemi qui devient ainsi son ami, comprenez Roturo. Enfin, la cerise sur le gâteau, le nappage sur le McFlurry, le whisky dans le coca, la cocaïne... Bref, l'effet de surprise. On ne le dira jamais assez, la surprise est une qualité indomptable en politique. Voilà ce qui, selon moi, a fait gagner M. Béchu. Ce dernier a réussi à utiliser quelque chose de négatif pour le transformer en quelque chose de positif. Antiparastase, crieraient mes camarades de lettres modernes. Mais c'est une technique typique, pensez à l'affaire Clearstream entre Villepin et Sarkozy. Chirac disait qu'en politique, le premier qui tire a perdu. Maintenant, déshabillons ce nouveau maire qui a gagné son pari électoral avec plus de 54% des suffrages. Même si le MJS a essayé de nous faire croire que derrière ce candidat se cachait un hologramme de Copé, ce n'est pas réellement vrai. Si sa surdité de l'oreille gauche fait pencher sa tête à droite lors de ses sorties de campagne, on peut dire que son cœur balance plutôt pour la gauche de l'UMP. Pour preuve, son soutien affiché à Fillon lors des élections du chef de parti. Sa façon de marcher si désinvolte n'est pas qu'un faux-semblant. Celui-ci a tout de même refusé l'appui politique de Copé lors d'un meeting UMP en 2012 à Angers. Cependant, il ne faut pas non plus s'y méprendre. Le fameux livre d'Alain Machéfer nous révèle son amitié avec l'abbé Ouar, le fondateur défunt de l'IRCOM, qui n'est pas reconnu pour son goût du progressisme politique. On note aussi qu'il a participé au dîner des grands de ce monde, le rassemblement de Bilderberg, en 2012. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ce ne sont pas des soirées où l'on joue à la belote. C'est une réunion de personnes très influentes dans le monde politique, des médias, des affaires et de la diplomatie. Des mauvaises langues ont même jusqu'à dire que ce club participe au complot du nouvel ordre mondial. Rien que ça. Supposons-le plutôt comme un cercle de rencontres pour élaborer un plan de carrière. Et le carriérisme, c'est l'une des attaques que l'on proférait le plus à l'encontre de Christophe Béchu. Il y a sans doute une part de réalité. Conseiller municipal à 21 ans, puis assistant parlementaire, à la trentaine sénateur et président du Conseil général, un parcours brillant sur le plan des institutions pour cette bête à élection. Mais qui peut dire que l'ambition est un défaut ? Espérons juste que, comme il l'est souligné dans le livre « La machine à perdre », Béchu saura gagner son destin politique en redorant notre ville. Angers comme tremplin, pourquoi pas, mais pourvu que, comme Juppé, son mentor, il ne délaisse pas la ville lorsque des portes plus grandes s'ouvriront à lui.
Merci Victor, et puis sans rancune pour tes mauvais pronostics.
Je te remercie.
Hier, après que les premiers chiffres sont tombés, les premiers chiffres des élections municipales, je suis allée promener le micro de Radio Campus Angers chez les militants des deux camps. les militants de Christophe Béchu ont déserté leur local de campagne de la rue Voltaire pour envahir le parking de l'hôtel de ville. Leur candidat affiche 54,36% des suffrages. Du côté des colistiers, on joue la modestie et on pense déjà au premier jour de travail.
Ça veut dire avant tout la victoire d'une équipe qui va pouvoir se mettre très vite au service des Angevins qui lui ont fait confiance et au service de tous les Angevins, bien évidemment.
Je suis heureuse que la majorité soit une majorité non pléthorique, mais en tout cas une majorité assez large, c'est-à-dire que les Angevins ont fait un choix. Maintenant, ce choix, il nous honore. Ça veut dire que dès demain matin ou demain midi, eh bien, c'est au boulot.
De l'autre côté du parking, les militants de Frédéric Béatz ont du mal à faire bonne figure.
Forcément, on est déçus parce que on a beaucoup travaillé. Bon, l'ensemble des gens ont préféré le changement. Moi, je dis le changement pour le changement. C'est peut-être pas un bon choix, mais bon. Là, maintenant, j'ai rien à dire. Je sais pas. Peut-être qu'on verra ça dans les années qui viennent.
Ben voilà, c'est la démocratie. Voilà. J'aime Angers. J'aime toujours Angers, mais voilà. Dans l'opposition pendant 6 ans. Et comme ça, je suis un peu déçu de voir cette droite-là passer, prendre la ville d'Angers. Ça fait peur. Bon, après, on sera vigilant.
Stéphane Corbin, l'ancien président de Quasar, refuse de céder à la peur.
Moi, je suis d'un principe éminemment démocrate, c'est-à-dire que je reste vigilant, j'attends, je vois et j'ouvre ma bouche quand il le faut. Donc, pas de peur. Je n'aime pas les gens qui agitent les peurs et je ne suis pas peureux de nature. Donc, j'attends que les choses se passent.
Si du côté des militants de Christophe Béchu, on prône l'homme et le projet et on peine à avouer que la situation politique lui était favorable, pour le candidat Front National Gaëtan Diran, il y a pourtant d'autres facteurs.
Je pense que ce qui s'est exprimé ce soir, c'est un rejet plein et entier de la politique gouvernementale avant le rejet de la politique municipale de M. Béatz.
Et pour les militants de Frédéric Béatz, le coupable est tout désigné.
Et si on est passé à droite ce soir, c'est grâce à M. Retureau.
On rappelle donc les résultats de ces élections municipales à Angers, 54,36% pour Christophe Béchu, dont la liste remporte 43 sièges au conseil municipal et 45,64% pour Frédéric Béatz, 12 sièges pour lui. Voilà, on tourne la page des municipales et on accueille nos invités. Ce soir, et pour la seconde fois, on retrouve nos ambassadeurs préférés, ceux des villes jumelles d'Angers. Bonjour Chiara Bacci.
Bonjour.
Vous êtes ambassadrice de la ville de Pise en Italie.
Oui.
À vos côtés, Verena Stenzel, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'Osnabrück en Allemagne.
Oui, tout à fait.
Et l'homme de ce studio, bonjour Marcus Schickhoff.
Bonjour.
Vous êtes ambassadeur de Vigan en Angleterre.
Oui, c'est ça.
Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode 1 du sous-marin consacré aux ambassadeurs, je rappelle en quelques mots, qui êtes-vous, à quoi servez-vous? Eh bien, vous êtes de jeunes Européens venus à Angers pour travailler au développement du jumelage entre cette ville et les vôtres, c'est bien ça?
Oui.
Alors, chers auditeurs, je précise tout de suite que nous ne parlerons pas ce soir avec Marcus, Chiara et Verena des élections municipales et encore moins des résultats, car ils n'ont pas le droit d'en parler. Par contre, j'aimerais savoir, comment ça se passe les élections municipales dans vos pays respectifs? Est-ce que ça a la même ampleur, Marcus?
En Angleterre, c'est pas la même ampleur, je pense, parce que nous, normalement, la plupart des grandes villes, on ne choisit pas un maire. Normalement, c'est déjà les conseillers qui choisissent un maire. C'est pas au peuple de choisir un maire, c'est au peuple de choisir un parti, en fait, politique.
Mais les conseillers sont élus par qui?
Les conseillers, c'est vrai, sont élus par les peuples, mais c'est pas les peuples qui choisissent le maire.
Chiara?
Mais en Italie, ça passe un petit peu comme en France. Du coup, normalement, ça a un impact très fort. Les lendemains, toute la presse parle des résultats, comme ici, parce que quand même, les maires sont en élu, comme en France, il y a les conseils municipaux, et surtout, aussi, chez nous aussi, il y a une importance au niveau national, parce que pas mal de fois, il y a une alternance. On voit bien ça, si au niveau national, il y a un parti politique très fort, normalement, parce que les élections quand même arrivent presque toujours à la moitié du mandat national, donc des politiques, bah, du coup, on voit un changement.
Comme en France,
oui.
Hier. Mm. Verena, en Allemagne?
Oui, alors en Allemagne, bien sûr que les élections municipales aussi à l'échelle des Länder intéressent bien sûr aussi beaucoup les gens. Mais comme chez nous, ce n'est pas dans tous les pays dans le même moment que ça se passe. Donc ça veut dire que ça ne peut pas produire un effet si grand que c'est le cas maintenant en France.
C'est par landeur, c'est ça?
Oui, ce n'est jamais un jour tous les pays, mais c'est à différents moments dans l'année.
Et ça n'a pas le même impact, du coup, au niveau national, enfin, au niveau de...
Voilà, je dirais que c'est justement en France, parce que tout se passe le même jour, que ça peut provoquer donc un tel grand effet sur le gouvernement, justement.
Un remaniement comme aujourd'hui, enfin, comme demain, peut-être, ouais. 1er avril. J'aimerais qu'on commence cette discussion, qui va comporter plusieurs parties, avec un sujet qui fait l'actu dans vos pays respectifs. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui fait la une de vos journaux en Angleterre, allez Marcus.
Alors ce week-end en Angleterre, on a vu les premiers mariages gays en Angleterre, ce week-end.
Ça a été autorisé, hein? Ça s'est passé dans la loi et quand?
Il y a peut-être 6 mois, 1 an.
Et c'était les premiers seulement ce week-end?
Oui, ce week-end, oui.
Et alors comment ça a été reçu ça en Angleterre?
C'est vrai qu'en Angleterre, les Anglais ont réagi peut-être moins fortement que les Français. Il n'y avait pas des Anglais dans la rue, par exemple, à Londres ou dans les autres plus grandes villes. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que tout le monde aime voir. Il y a des croyances toujours assez fortes au Royaume-Uni. Et il y a des personnes qui sont contentes, il y a des personnes qui sont moins contentes aussi de voir les premiers mariages gays en Angleterre.
Et c'était plusieurs mariages gays ce week-end en même temps
ou... Il y avait plusieurs, oui, en même temps. Certainement à Londres et à Brighton aussi. Ça change qu'en fait, c'est les mariages gays qu'en Angleterre et le Pays de Galles. En Écosse, en Irlande du Nord, c'est autre chose. Alors oui, c'était un week-end assez important pour le pays.
Verena, en Allemagne?
Alors, en Allemagne, c'est depuis longtemps, mais donc toujours l'actualité qui occupe le pays, c'est la crise de l'Ukraine, donc toujours avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Et donc, la relation entre l'Allemagne et la Russie qui est en train de changer, donc, et qui a été assez proche et qui était devenue, justement, au début de cette année, très proche, où on disait encore que sans la Russie, rien n'est plus possible. Et donc, maintenant, il faut changer un peu d'avis.
On reviendra justement dans une deuxième partie sur cette annexion de la Crimée par la Russie pour que vous nous disiez comment c'est ressenti dans vos pays respectifs. Chiara, la une en Italie.
Mais du coup, nous sommes plutôt concentrés à la politique interne du pays parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas trop longtemps, il y a eu un changement au niveau du gouvernement. Ben, du coup, c'est toujours un gouvernement de coalition. C'est ça qu'on l'appelle comme ça, parce que c'est les résultats des élections qu'on a envoyé pas un parti gagnant, honnêtement. Ben, du coup, c'est les nouvelles premiers ministres qui, c'est aussi les représentants de partis de centre-gauche, qui a lancé beaucoup de propositions de réformes, surtout pour des changements aussi au niveau structural, je pense. Par exemple, les Sénats, c'est en actualité d'aujourd'hui, de ces derniers jours. En fait, c'est la proposition de supprimer les Sénats comme on le connaît aujourd'hui, qu'ils ne soient pas élus, qu'ils soient en fait une chambre de représentants des régions et des grandes institutions d'Italie, pas élues, donc, et avec pas une deuxième chambre qui peut décider les sorts de l'Italie. Parce que normalement, sinon, chez nous, les lois passent avant tout au Parlement, et après, il faut qu'ils soient approuvés par le Sénat.
Et quelle est la réaction des Italiens à cette proposition?
Mais c'est une réforme sur laquelle on parlait depuis longtemps. Donc les Italiens l'attendent depuis longtemps parce qu'on pense que ça sera une façon de rendre plus flexible et plus facile les parcours des lois et plus vite aussi.
Simplifier le parcours.
Oui, simplifier les parcours, oui.
On va parler juste après cette pause musicale justement de l'annexion de la Crimée par la Russie. Vous le savez, quand les ambassadeurs sont dans le studio, c'est eux qui choisissent la musique. Marcus, c'est votre moment de gloire. Disclosure, F for you, on en reparlera juste après.
infested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats. They're manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats. They're manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats. They're manifested in words and the lies that you speak. Because I played the fool for you. 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 Because I with restless whispers and cheats. They're manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats. They're manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats. They're manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats. They're manifested in words and the lies that you speak. Because I played the fool for you. 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 Because I played the fool. Because I played the fool for you. Because I played the fool for you. Because I played the fool.
Disclosure, un petit mot sur ce groupe qu'on connaît en France quand même, mais bon.
Ah oui. Alors oui, Disclosure, c'est deux frères d'Angleterre, de Surrey, qui n'est pas très loin de Londres. Et ils sont toujours assez jeunes aussi, quand même. Ils ont, oui, ils ont des 22 ans, je pense.
Et c'est un groupe qui marche bien
en Oui, ils sont populaires, très populaires en Angleterre, oui.
Sérieusement. Les récents événements en Russie ont constitué un examen sérieux. Ils ont démontré la qualité et les nouvelles capacités de notre personnel militaire, ainsi que le fort esprit moral de nos équipes.
Vladimir Poutine sur Euronews proclamant l'annexion de la Crimée, ancienne région ukrainienne, par la Russie. Pendant de longs mois, les Ukrainiens pro-européens ont réclamé le départ du président pro-russe Viktor Yanukovych. Et après son départ, un référendum a entériné l'annexion de la région est de l'Ukraine, la Crimée, à la Russie. Depuis, guerre plus ou moins froide entre la Russie et l'Occident. Chers invités, est-ce que c'est un événement qui intéresse vos compatriotes? Ou alors est-ce que, comme en France, c'est un peu oublié dès qu'il y a des élections municipales?
Je pense que c'est quelque chose qui, oui, qui intéresse beaucoup les Anglais, les Britanniques aussi. C'est vrai que le gouvernement britannique est très, très impliqué, je pense, au niveau des sanctions européennes contre la Russie. Et oui.
Mais en Italie, lors de la révolution, en fait, la sorte de révolution qui a eu lieu en Ukraine, et pendant l'annexion de la Crimée, il y a eu quand même pas mal des premières pages dédiées par la presse. Quand même, je pense pas que c'est un sujet, oui, c'est un sujet d'actualité, bien sûr, mais quand même, c'est pas trop senti comme une chose que l'Italie peut jouer comme, l'Italie peut pas faire comme les États-Unis ou l'Europe. On est plutôt aligné aux décisions de l'Union européenne.
Il n'y a pas vraiment de prise de position
propre.
Il y a une prise de position par un
accord avec l'Union européenne.
Ce que disait Marcus avant l'émission, hors micro, c'est qu'en fait, il y avait quand même des intérêts économiques pour l'Italie en termes d'importation de gaz.
Mais oui, en général, toute l'Europe, presque toute l'Europe continentale, a une grande puissance. La plupart du gaz arrive depuis la Russie. Mais nous, nous n'avons pas les centrales nucléaires. Donc, bien sûr, nous sommes dépendants de l'énergie qui arrive d'ailleurs. Et aussi, par exemple, en Italie, l'autre grande partie du gaz arrive depuis les Maghreb. Donc, voilà, bien sûr, nous sommes dépendants au niveau d'énergie, mais quand même, quand il y a une décision au niveau des stratégies internationales et de l'Union européenne, on s'aligne, on est d'accord, on est ensemble à l'Union européenne, normalement.
Il y a un pays qui a pris beaucoup d'importance dans ces négociations-là, c'est l'Allemagne. D'abord, pendant la révolution ukrainienne, le ministre des Affaires étrangères allemand avait mené des discussions. Je n'ose pas prononcer son nom parce que j'ai peur de l'écorcher. Frank-Walter Steinmeier.
Oui, c'était très bien.
Et en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a aussi été voir plusieurs fois Vladimir Poutine depuis cette annexion-là. Verena, en Allemagne, est-ce que c'est un sujet qui fait partie de l'actualité des conversations?
Ah oui, oui, oui. Dès le début, vraiment, ce sujet n'a cessé d'être vraiment à l'actualité. Donc vraiment, tous les jours, dans les informations, il y avait beaucoup, beaucoup d'émissions spéciales destinées à ce sujet. Partout, on en discute. Et c'est vrai que, justement, au début, on avait l'espoir que, voilà, que tout se déroulerait très bien avec l'approchement de l'Ukraine vers l'Europe. Et on n'a pas du tout imaginé que la Russie agirait de cette façon-là.
Et Angela Merkel est allée a discuté plusieurs fois avec Vladimir Poutine. Comment est-ce que c'est reçu, ça, chez les citoyens allemands, cette discussion, cette approche?
Alors oui, bien sûr, on trouvait bien d'essayer de parler avec Poutine, mais quand même, on n'a pas vraiment confiance en Poutine. Et voilà, c'est ce qui s'est montré, donc que c'est une personne qui fait vraiment ce qu'il veut et... où elle ne peut pas prévoir de pouvoir parler avec lui dans le bon sens.
Il y a une question qui se pose aussi, c'est la question de la dépendance économique. Alors Chiara, vous en parliez à propos du gaz, des importations de gaz. En Allemagne aussi, c'est un peu important, c'est un partenaire important. L'Allemagne, c'est 76 milliards d'euros en 2013. Est-ce que ça, en termes d'économie, ça inquiète aussi les investisseurs allemands, les entrepreneurs?
Ah oui, bien sûr que ça inquiète. Et il me semble qu'ils ont déjà commencé à retirer leur argent de la Russie. Et voilà, justement maintenant, l'Allemagne commence tout de suite beaucoup plus de se concentrer sur d'autres partenaires comme la Chine, où justement, très récemment, beaucoup de traités ont été signés pour la coopération économique.
Est-ce que chacun dans vos pays respectifs, on parle d'un retour à la guerre froide, comme ça a été lu dans les journaux français?
Oui, oui, aussi en Italie, tout de suite, l'annexion de la Crimée, l'arrivée de l'armée aux frontières, aussi dedans la Crimée, ils ont commencé à dire, voilà, c'est une vague de guerre froide, on pensait de l'avoir perdue, voilà, qui n'existait plus, mais finalement, voilà, avec Poutine, il y a eu quand même des discussions sur ce sujet-là en Italie, sur la presse surtout.
En Angleterre, Marcus, est-ce que c'est un terme qui est revenu dans les journaux ?
Oui, je pense que c'était, oui, c'était un terme qui est revenu dans les journaux aussi, mais je pense qu'il faut dire aussi que il y a beaucoup moins de pays aujourd'hui qui partagent les mêmes idées que les États-Unis ou la Russie ou l'USSR. Avant, pendant la guerre froide, c'était vrai que la USSR avait beaucoup de, pas de colonies, mais avait beaucoup de pays qui ont soutenu la Russie à l'époque, comme aussi les États-Unis avaient beaucoup de pays, pays amis, on peut dire. Maintenant, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de pays qui sont indépendants maintenant.
La situation a changé, la géopolitique a changé, et donc c'est plus comparable à vos yeux la situation d'avant 89 et cette situation aujourd'hui.
Oui, je pense oui.
On va marquer une pause avec, on accueille tout de suite Anne-Marie, notre chroniqueuse écho du lundi. Et Anne-Marie, aujourd'hui l'INSEE a publié les chiffres du déficit public de 2013, pas vraiment glorieux.
Stéphane, c'est le secret du gouvernement aujourd'hui. Parlons plutôt des mauvais résultats des élections municipales pour la gauche et pour le gouvernement actuel.
Mais la politique, on en a déjà parlé en début d'émission. Allez, dis-moi, quel est ce secret ? C'est toi la chroniqueuse écho, dis-moi, que se passe-t-il ?
Bon, bien, d'accord, j'accepte à la condition de quelques contreparties que je te demanderai à la fin de l'émission. That's the deal.
Je ferai de mon mieux, dis-moi avant, ce qu'il y a de si important aujourd'hui dans le monde économique.
L'INSEE a sorti ses chiffres, et le gouvernement n'a pas de quoi se vanter. Ils ont raté leur objectif. Encore, me direz-vous, cher auditeur ? Oui, encore une fois. Bon, on peut se demander si jamais un jour, un gouvernement a réalisé ses objectifs. Bien sûr, on ne compte pas les 30 glorieuses, trop easy.
Anne-Marie, le déficit public ?
Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai une mémoire sélective, un peu comme le gouvernement. Ils ne se sont toujours pas prononcés là-dessus. Ils ont raté de 0,2 point le déficit qu'ils avaient prévu en 2013. Le gouvernement s'était engagé pour que le déficit public de la France n'atteigne que 4,1% du produit intérieur brut.
Attends, mais c'est que dalle une différence de 0,2 point. Et puis d'ailleurs, ça veut dire quoi ?
Oui, mais ça se compte en milliards, Tiffaine. À votre avis, déficit, cela signifie quelque chose de négatif ou de positif ?
Négatif.
Et on parle de public pour parler de quoi ? Pour indice, c'est le contraire de privé.
Des institutions, des administrations.
Un bon point pour toi. On parle ici de l'État, des collectivités locales, des administrations centrales et de l'administration de protection sociale. Il y a un déficit public quand les administrations dépensent plus que ce qu'elles gagnent. Elles dépensent leur budget pour leur fonctionnement. Normal, me direz-vous. Il y a aussi des dépenses effectuées dans la sécurité, l'armée, la police, la santé, les infrastructures, et j'en passe et des meilleurs.
Donc les administrations publiques dépensent plus que ce qu'elles gagnent par les impôts, ou encore les dividendes des entreprises comme la SNCF qui sont versés à l'État.
Oui. En 2012, le déficit public était de 4,8%. Le gouvernement avait pris comme bonne résolution pour l'année 2013 de baisser de 0,5 point ce déficit. Manque de bol, ça n'a pas réussi. Et Bernard Cazeneuve, le ministre délégué au budget, et son compagnon de jeu, Pierre Moscovici, se gardent bien le secret. Ils disent que le redressement des comptes publics engagé depuis 2012 se poursuit dans un contexte économique qui s'améliore graduellement. Ma foi, ce n'est pas complètement faux. J'aurais peut-être pas dit la même chose vu comment ça se passe au niveau de l'Europe.
Aurais-tu une autre info dont tu voudrais nous faire part ?
Bah oui, j'avoue. C'est très solennellement que je vous l'annonce, à vous, auditeurs, la Commission européenne, celle qui tape sur les doigts quand ça va mal, nous a placés, nous, la France, dans le même sac que l'Irlande et l'Espagne. Vous savez, ce pays où les villes fantômes et le chômage se font légion. Bref, nous sommes sous surveillance renforcée. On nous avait donné un délai de 2 ans pour que notre déficit public n'atteigne plus que 3% fin 2015. Pas besoin d'avoir les yeux en face des trous pour se rendre compte que, mis à part, je ne sais pas moi, un miracle, l'intervention de la Sainte Vierge, une pluie d'astéroïdes en France contenant des milliers, que dis-je, des milliards d'euros ? Non, nous n'arriverons pas à réaliser cet objectif. L'Europe l'a bien compris.
C'est quoi la prochaine étape ?
Eh bien, il va falloir couper dans l'art. Moins de dépenses. Après, la manière douce, parce que oui, la hausse des impôts, c'est tout doux, vu ce qu'il va nous attendre Je vous laisse imaginer une baisse des dépenses de l'État dans la santé ou dans l'éducation.
Un mot pour conclure.
Notre cher monsieur le président va devoir s'occuper de quelques dossiers explosifs avec ce dernier. La dette publique s'élevant actuellement à 200 milliards d'euros. Va-t-on seulement un jour ne plus devoir de l'argent à qui que ce soit ? Eh tiens, peut-être bien qu'Hollande pourrait prendre exemple sur ce collégien américain Suvir. Selon lui, un simple changement de police de caractère permettrait à l'État fédéral des États-Unis d'économiser 370 millions de dollars. Vous voyez, c'est dans des petits riens que l'on fait de grandes choses. Ou si demain, vous gagnez à l'euro million, pensez à faire un chèque au gouvernement.
Merci Anne-Marie. Tout de suite, on va marquer une pause musicale. C'est celle de Chiara. Ça s'appelle Marco Corré, ex-otago. Un petit mot, Chiara.
Ex-otago.
Ex-otago, pardon, en italien.
Pas de souci. Et Marco Corré. C'est Marco Curo. Voilà, c'est un groupe qui vient des jeunes, formé par des jeunes qui s'est formé en 2002. Et du coup, ils sont sur la scène depuis quelques ans. Et maintenant, ils ont commencé à gagner beaucoup appréciés par les jeunes en Italie.
On va écouter tout de suite.
Marco a piedi tornerà. È come una danza, Marco è una vita che balla, mio padre non lo sa, Guglielmo non lo sa, Zirene non lo sa, e Marco a piedi se ne andrà.
Actuellement, on assiste à tout un monde qui s'écroule, quoi. L'Europe s'écroule totalement actuellement. Comme j'ai une passion pour l'histoire et je retrouve à longueur de temps des tas de réminiscences, des civilisations qui s'écroulent actuellement.
Ça vous inquiète ou ça vous fait plaisir que l'Europe s'écroule ?
Bah, ça m'inquiète dans le sens où je suis quand même en ce moment en Europe et je suis assez international, hein. je suis pas tellement patriote, je suis assez international personnellement. Ça m'est absolument égal de vivre en Angleterre ou vivre en France, vivre en Suisse, ça m'est absolument égal. Enfin, ça m'inquiète absolument pas, non.
Voilà, un jeune homme qui se dit sceptique sur l'Europe, c'est un document de l'INA qui date de 1965. Vous êtes dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous sommes en compagnie de trois ambassadeurs des villes jumelées avec Angers, Chiara Bacci pour Pise, Verena Stenzel pour Osnabrück et Marcus Schickhoff pour Wigan. Je disais Wigan jusque-là, mais j'ai cru comprendre que ça se disait autrement. Alors, on va consacrer cette dernière partie de la discussion à parler des jeunes, de la jeunesse européenne à partir de vos trois exemples, donc l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Comment est-ce qu'ils vont, vos jeunes, chez vous, Chiara?
Voilà, moi j'ai quelques chiffres, ok, juste pour... En fait, déjà l'Italie c'est le deuxième pays pour plus vieux d'Europe, donc juste après l'Allemagne. Du coup, ça veut dire que tous les 100 jeunes, il y a 148 personnes qui ont plus que des 54 ans. Et en plus, nous avons maintenant un chômage parmi les jeunes qui ont entre 19 et 24 ans, du 40%.
40% de chômage chez les jeunes en Italie.
Oui, et parmi les jeunes qui sont employés, qui ont moins de 25 ans, plus de la moitié, donc les 54%, sont dans une situation de précarité. Donc ils sont précaires.
Vous êtes en train de nous dire que ça va pas top en
Italie. Non, pas trop. Pas trop top.
Marcus, en Angleterre, les chiffres sont aussi alarmants qu'en Italie ?
Oui, c'est peut-être moins alarmant qu'en Italie, mais c'est toujours très alarmant. Je pense qu'on a des taux de chômage de 20% chez les jeunes, qui est toujours très inquiétante, même si c'est pas un niveau de chômage très élevé par rapport à d'autres pays en Europe. Alors ça fait que il y a peut-être 1 million de jeunes en Angleterre, au Royaume-Uni plutôt, qui sont au chômage.
Et en termes de précarité, est-ce que les jeunes qui travaillent sont précaires? C'est des travailleurs pauvres ou
Oui, on peut dire ça. En ce moment, un grand débat aussi au Royaume-Uni, c'est les contrats de 0R. Je ne sais pas si ça existe en France.
Est-ce que c'est les contrats de 0 heure?
En fait, une entreprise peut nous employer, mais sans contrat où il n'y a pas des heures fixées.
Oui.
Il n'y a pas des heures stipulées, c'est que c'est un contrat de 0 heure. Alors, il peut dire que oui, cette semaine, vous allez travailler 10 heures. La semaine prochaine, vous allez travailler 20 heures. La semaine après, vous allez travailler que 1 heure.
Et ça existe ou c'est juste un projet pour l'instant?
Non, ça existe.
D'accord, ils sont en avance en Angleterre.
Si, alors oui, c'est une chose très inquiétante, oui. Mais après, ça cache peut-être un peu le taux de chômage. Si on peut dire que oui, les gens travaillent, mais d'accord, ils travaillent, mais ils travaillent dans les contrats de 0 heure, c'est pas vraiment le travail.
Verena, j'ai l'impression qu'en Allemagne, on s'en sort mieux que dans le reste de l'Europe. Chez les jeunes, le chômage, c'est 8%.
Oui, c'est vrai. En Allemagne, on a vraiment la chance d'être le pays qui est quand même le moins touché, ou un des pays les moins touchés par la crise économique. Et justement, en ce moment, l'économie recommence à redémarrer. Donc, voilà ce qui donne de l'espoir aussi.
Est-ce que je pense à l'Italie et en Angleterre, du coup, les taux de chômage sont particulièrement élevés, hein, 40% en Italie. Vous remarquez un entrain chez les jeunes, une prise d'initiative, ou plutôt, on baisse les bras?
Mais non, en Italie, on cherche quand même de s'adapter à la situation. Il y a quand même, on est un peu désespéré, bien sûr, parce que c'est pas une situation chouette. Mais du coup, il y a pas mal de jeunes qui bougent, qui cherchent des se réinventer aussi après les diplômes de l'université. Peut-être ils changent de travail. Par exemple, je sais pas si tu sais, en fait, les créateurs de l'app, des apps très connues, hein, l'Android, pour les téléphones, c'est italien.
L'application,
oui.
Candy Crush?
Oui, Candy Crush, oui.
Donc on invente en Italie quand on est...
Oui, il y a plein de startups qui naissent, qui sont nées en Italie en fait. Et il y a pas mal de jeunes qui bougent pour aller à l'étranger.
Et en Angleterre, Marcus, est-ce qu'il y a comme ça un entrain, le fait que les jeunes soient un peu perdus? Est-ce qu'ils essaient de se réinventer?
Oui, il y a les jeunes en Angleterre qui aiment l'entreprise, qui aiment faire l'entreprise aussi, qui inventent des choses, c'est vrai, beaucoup de startups aussi au Royaume-Uni. Et là aussi, il y a des jeunes qui peut-être ont déjà fini leurs études et ils continuent encore pour prolonger un peu, pour éviter d'être au chômage tout de suite. Ils décident de continuer avec leurs études. Mais ça change que c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui ont été au chômage déjà depuis longtemps. C'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi.
Et est-ce que dans ce contexte particulier de crise, on croit encore en l'Union européenne?
Mais ça dépend, en fait, nous sommes un petit peu la génération qui a profité beaucoup de, par exemple, de, des échanges européens. Je pense par exemple à l'Erasmus, les programmes Leonardo. Donc, on a beaucoup de gens qui ont quand même pu découvrir l'Europe vraiment d'une façon véritable, toucher l'Europe. Pas, c'est pas seulement une idée loin. Mais c'est vrai que ça dépend aussi du milieu social et culturel. Des, par exemple, les gens qui n'ont pas eu l'occasion de bouger, des aussi pour la famille, voilà. N'ont pas trop ces sentiments.
En Allemagne, Verena, est-ce que les jeunes, ils ont le sentiment d'appartenir à l'Union européenne?
Je dirais que oui, que c'est en Allemagne très développé de se voir aussi au milieu de l'Europe, pas seulement au niveau géographique. Et je pense aussi que justement l'Allemagne, avec la relation profonde avec la France, je pense que cela a aussi beaucoup contribué à cela, qu'on a l'Office franco-allemand de jeunesse qui facilite beaucoup de possibilités de rencontres et des échanges entre les jeunes, notamment donc des deux pays.
Alors, en mai auront lieu les élections européennes. En France, aux dernières élections, en 2009, un sondage TNS Sofres disait que l'abstention des jeunes atteignait 70%. Qu'est-ce qu'il en est en Italie, en Allemagne, en Angleterre? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un mouvement vers les urnes pour dire on n'est pas content, ou plutôt ils vont les bouder, les urnes?
Je pense qu'il y aura des niveaux d'abstention assez élevés au Royaume-Uni, personnellement. J'espère qu'il y a des gens qui viennent aux urnes pour voter et pour exprimer le oui.
Mécontentement.
Pour s'exprimer.
Chiara?
Mais en Italie, je sais pas. En fait, normalement, il y en a l'abstention des jeunes. Bah, parce que je pense qu'il n'est pas trop, s'il n'y a pas trop de publicité, il n'est pas trop ressenti comme une chose importante, les votes pour l'Union européenne. Mais du coup, je pense que cette fois-là, il y aura quand même une participation importante parce que ça fait déjà 2 ans depuis l'année dernière, nous n'avons pas un gouvernement politique. Et je pense que les Italiens profiteront de ces élections-là pour donner leur avis politique aussi à la nation. Pour dire, voilà, où ils préfèrent aller, de quel parti.
Et Verena, en Allemagne?
Bah oui, j'espère que la participation augmente, parce que c'est toujours dommage que pour l'Europe, c'est si difficile de mobiliser les personnes, donc pas seulement les jeunes, mais vraiment tout le monde à voter.
On va conclure cette conversation avec une petite annonce des ambassadeurs de la ville d'Angers. Marcus.
Alors, en fait, la ville d'Angers est en train de recruter pour l'année prochaine, pour recruter les ambassadeurs d'Angers pour l'année prochaine, pour aller dans les villes de Wigan, de Osnabrück et de Pise. Et la date les dates limites pour cette année, c'est le 17 mars, je pense.
Pour présenter la candidature.
Ah, le 17, pardon. 17 pas mai. Le 17 mars. Le 17 mai, oui, pour présenter la candidature.
Donc tout le monde peut se présenter?
Oui, en fait, tout le monde. Et entre, je pense qu'il y a des limites d'âge jusqu'à 30 ans, mais quand même, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la mairie ou sur le site des relations internationales de la mairie, et aussi adresser les CV, les lettres de motivation au service des relations internationales de la mairie.
Bon, le message est passé. On va conclure avec le choix de Verena, choix musical. C'est Sido, ça s'appelle Lib, donc ça va parler d'amour.
Voilà, et ça se trouve sur les top 10 en ce moment en Allemagne.
Voilà, écoutez donc une chanson qui passe à la radio en Allemagne.
Ich will dieses Kribbeln im Bauch, diese. Ich will den siebten Himmel, ich glaub. Das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, so ist die. Ich will dieses Kribbeln im Bauch, diese. Ich hoffe, du findest sie auch, die große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, diese. Ist das Gefühl nach dem ersten Kuss, wenn ich ohne nachzudenken ständig an dich denken muss? Ist, wenn wir beide auf der gleichen Stufe stehen und ich in deinen schönen Augen meine Zukunft sehe? Ist, wenn aus unseren Herzen Funken sprühen und wir uns ohne einen Tropfen Alkohol betrunken fühlen? Ist mal leise, mal laut, das weiß ich jetzt auch, darum schrei ich es raus, dass ich dich. Ich will dieses Kribbeln im Bauch, diese. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub. Das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, so ist die. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch, diese. Ich hoffe, du findest sie auch, die große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, diese. Ist, wenn ich an dich denk und es mir gut geht. Und wie dieser Kloß in meinem Hals, wenn du fehlst. Ist, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und immer wieder auch der Schlüssel zu einem glücklichen Leben, diese. Ist
den anderen nicht zu erdrücken und auch mal Schmerzen auszuhalten, nur um dich zu beschützen. Ich glaube, bedeutet alles zu teilen und sich beim Liebe machen nicht zu beeilen. Ich bin mir sicher, diese heißt einander vertrauen, dem anderen glauben. Man sieht die Welt mit anderen Augen. Ich weiß, die ist mal leise, mal laut. Das weiß ich jetzt auch. Darum schrei ich es raus, dass ich dich.
Ich spür dieses Kribbeln im Bauch.
Diese.
Ich bin im siebten Himmel, ich glaub.
Das ist die.
Guck mal, was sie mit mir gemacht hat.
Diese. Weil ich dich. So ist die.
Ich spür dieses Kribbeln im Bauch.
Diese.
Ich hoffe, du findest sie auch.
Die große.
Guck mal, was sie mit mir gemacht hat.
Diese. Weil ich dich. Diese. Ist, wenn du weißt, was du am anderen hast. Und nicht wegen jeder kleinen Streiterei den anderen hast. Heißt den Rechner auch mal runterfahren. Und dass wir immer noch zusammen sind in 100 Jahren. Ist schuld daran, dass man nicht mehr schlafen will. Weil das wahre Leben schöner ist als jeder Traum. Ist mal leise, mal laut, das weiß ich jetzt auch. Darum schrei ich es raus, dass ich.
Ich spür dieses Kribbeln im Bauch.
Diese.
Ich bin im siebten Himmel, ich glaub.
Das ist die.
Guck mal, was sie mit mir gemacht hat.
Diese. Weil ich dich. So ist die.
Ich spür dieses Kribbeln im Bauch.
Diese.
Ich hoffe, du findest sie auch.
Die große.
Guck mal, was sie mit mir gemacht hat.
Diese. Weil ich dich. Diese.
Ich spür dieses Kribbeln im Bauch.
Diese.
Ich bin im siebten Himmel, ich glaub.
Das ist die.
Guck mal, was sie mit mir gemacht hat.
Diese. Weil ich dich. So ist die.
Ich spür dieses Kribbeln im Bauch.
Diese.
Ich hoffe, du findest sie auch.
Die große.
Guck mal, was sie mit mir gemacht hat.
Diese. Weil ich dich.
On est lundi et comme tous les lundis dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on retrouve Charlotte et Julien, nos deux sportifs, pour le débrief du week-end. Permettez-moi de vous dire bonjour.
Salut Tiffaine.
Honneur à nos ducs pour commencer cette chronique sport. Nos joueurs de hockey sur glace disputent la finale de Ligue Magnus contre Briançon et ce depuis mardi dernier. Nous en sommes au match 5 d'une série qui peut potentiellement en comporter 7. Les mecs font les choses simplement. Retour avec vous sur les premières rencontres de la série.
Donc, comme tu l'as si bien dit, Tiffaine, le premier match de la finale avait lieu mardi soir à Briançon. Et comment vous dire, ça n'a pas été si simple pour nos Angevins.
Simon Lacroix nous avait prévenu, Briançon, qui a terminé deuxième au championnat, est redoutable pendant ses play-offs. Si on prend en compte la semaine de repos qu'ont eu les Diables Rouges pendant que nous nous battions encore avec les Dragons de Rouen, et le voyage en quart pour se rendre dans les Hautes-Alpes, forcément, à la fin, bah, ça fait la différence.
Et donc, lourde défaite sur le score de 7-2. Pour être positif, on note que les Ducs ont marqué deux fois dans le dernier tiers, de quoi espérer un sursaut d'orgueil le lendemain.
Pour le match 2 de la série, les joueurs de Simon Lacroix ont fait preuve d'une belle capacité de réaction, en profitant du manque de discipline des Diables Rouges pour s'imposer 4-3. Nous en sommes à un partout, les deux équipes se donnent rendez-vous au Hara vendredi soir pour le match 3 de la série.
Angers se prépare à recevoir deux fois les Briançonnais, il serait alors très bien inspiré de faire le break dans cette finale.
Oui, mais voilà, après seulement 6 minutes de jeu, nos Ducs sont déjà menés 2-0. Nouvelle soirée difficile pour nos hockeyeurs, malmenés chez eux, qui s'inclinent finalement 6-2.
Série passionnante à suivre puisque aucun match ne se ressemble. Bien malin celui qui pouvait prédire le scénario du match qui a eu lieu samedi soir au Hara.
Une fois de plus, les Ducs se sont battus comme de beaux diables. Bon, ok les filles, elle était facile.
Ouais, très facile.
Ce match était importantissime puisque en cas de victoire, Briançon n'était plus qu'à un succès du titre.
Pourtant, sous pression au début de match, nos Ducs ont su attendre leur heure pour porter l'estocade et s'imposer 3-1 grâce à des buts de Skinner, Anderson puis Walsh en fin de match dans une cage vide.
Grâce à cette victoire, on est assuré de voir encore deux matchs minimum dans cette finale. Rendez-vous pour le match 5 mardi à Briançon. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas suivre nos Ducs, étant donné que les rencontres sont diffusées sur l'équipe 21, chaîne gratuite de la TNT, que vous recevez forcément chez vous.
Merci Julien. En roller hockey, les Hawks d'Angers jouaient contre les Jokers d'Aubagne ce week-end.
Nos roller hockeyeurs, oui ça se dit, jouaient à domicile et ont prouvé aux Jokers qu'à Angers on ne rigole pas. Une victoire 5-3 donc pour les Hawks qui confortent leur troisième place.
Et surtout, ça leur permet de préparer sereinement les playoffs du championnat élite.
Allez, on poursuit avec notre équipe de football angevine, je parle du SCO bien sûr. Ils ont une semaine chargée et une semaine plutôt à leur avantage.
Oui, mardi ils affrontaient l'équipe de Moulins, une équipe de CFA, pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France.
On peut dire que c'était un match à suspense, 0-0 à la mi-temps, avec un expulsé du côté angevin, monsieur Yatara, qui est tombé dans le piège de la provocation et a bêtement répondu. La seconde mi-temps se déroule donc à 10, mais aucun changement, 0-0 donc à la fin du match. Et comme tu le sais sûrement, Tiffen, quand c'est la Coupe de France, il faut forcément un vainqueur, pas de match nul possible.
Bien sûr que je le savais.
Après les 90 minutes de temps réglementaire, l'heure était à la prolongation. Encore 30 minutes. Et au bout de cette prolongation, toujours rien. Ce quart de finale s'est alors joué au tir au but et...
Et on est en demi-finale, c'est ça ?
Et ouais, et notre prochain adversaire est pas des moindres, Rennes, une équipe de Ligue 1. Rendez-vous donc à Rennes, le 15 avril.
Bon, sinon pour le championnat, est-ce que le SCO a renoué avec la victoire ?
Et non, mais les joueurs angevins n'ont pas perdu non plus, ce qui est déjà une bonne chose.
Ils affrontaient le premier du classement, en plus, j'ai nommé Metz. Certains ont dû dire que c'était perdu d'avance, et au vu des derniers matchs, mais les joueurs du SCO ont su faire taire les préjugés.
Oui, enfin, ils n'ont pas gagné, mais on a eu le droit à un beau match nul, de partout. Au final, le SCO est troisième, ex aequo avec Niort, derrière Lens deuxième, et Metz toujours en tête.
On finit par l'actu basket de ce week-end.
Et on commence avec les filles, honneur aux dames, qui ont gagné samedi contre Saint-Amand et nous, 69-58.
Ce match était capital pour les joueuses angevines, elles jouaient leur maintien en ligue féminine.
Après les troisièmes premiers quart-temps, les joueuses de l'UFAB étaient à égalité avec celles de Saint-Amand. Tout s'est donc joué dans le dernier quart.
Les filles ont alors pris leurs responsabilités et ont finalement remporté le match 69-58. Mission maintien accomplie.
On continue avec les garçons qui ont eu un mauvais week-end.
Oui, ils jouaient samedi contre les 7e du classement, Saint-Chamond, et on peut dire que ce match n'a pas été si simple.
Les hommes de Vincent Lavandier pouvaient y croire à la mi-temps après avoir mené de 15 points. Mais en deuxième période, nos basketteurs angevins ont été déstabilisés.
Seulement 25 points inscrits en seconde mi-temps pour l'ABC contre 43 pour leurs adversaires. Une défaite pour nos angevins 72-65 qui sont donc toujours deuxième au classement ex aequo avec Charleville.
Allez, c'est tout pour cette semaine.
Et c'est déjà pas mal.
Merci Amis Sportifs pour ce débrief hebdomadaire. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine. Il y a bien sûr le traditionnel blind test au Donald's Pub à 20h. Une maison de poupées d'Henrik Ibsen est mise en scène par Belinda Panhaleu et jouée à 20h dans l'amphibasin de la Cato dans le cadre du festival Les Trois Coups. Au 400 coups, c'est la semaine de cinéma en langue espagnole. Et ce soir, vous pourrez voir Medianeras de Gustavo Tareto à 20h15. Voilà. Il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet ou en rediff demain dès 13h sur le 103 FM. Tout de suite à 20h, vous retrouvez DeLorean, l'émission Histoire de Radio Campus Angers. On vous laisse avec la bulle sonore. Radio Campus Angers s'associe à Phase B pour vous proposer des créations sonores. Voilà un extrait du documentaire Corps de femme, accident de femme de Michel Ficou. Vous pouvez réécouter son intégralité sur notre site internet. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. On se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Vous voulez un gommage ?
Ça fait combien avec le gommage ?
Bah,
non, le gommage, on va le faire, j'ai le gant.
Si tu veux voilà. Prendre un massage par exemple.
Mais c'est pas pareil comme une gommage.
Je sais, je vais apprendre.
Non. Tu vas laisser les traces, vous allez, vous passez le savon noir, c'est elle qui s'occupe pour 6 euros.
Ça s'appelle Keltoum. Keltoum. Elle est tout au coin ici, avec le peignoir bleu et blanc, vous lui donnez le jeton, après vous descendez. D'accord ? Voilà.
Non, je disais, je parle en arabe, en français. Je sais pas si tu m'entends beaucoup.
Ça, c'est quoi? C'est un vrai gommage, hein?
C'est un vrai gommage par une vraie pro. Ça fait du bien.
Alors, je m'appelle Nadia, j'habite à Clichy. J'ai 41 ans. Je suis commerciale.
Je m'appelle Céline. J'ai 25 ans. Je suis étudiante. C'est sûr que ouais, c'est ça qui me représente le mieux. Est-ce que le hammam est un utérus ? Oui, je suis assez d'accord avec cette image. Comme si c'était un grand utérus dans lequel il y a plein de petits utérus. C'est chaud et humide. C'est féminin, accueillant. C'est pas précieux.
Alors moi je me suis sentie femme
Je pense à l'adolescence, au moment où le corps change, évolue. J'ai l'impression qu'on se sent femme, peut-être avec les premières expériences amoureuses, peut-être avec les premières émotions, les premiers coups de foudre, je pense.
Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 35 ans et je suis journaliste. Non, c'est marrant parce que ça me fait penser aux règles, en fait, qui sont généralement le truc un peu symbolique dont on dit que, voilà, que ça fait d'une petite fille une femme. Moi, j'ai pas vraiment eu ça pour quand j'ai eu mes règles. Je pense que j'étais en sixième quand je les ai eues, j'étais hyper jeune. Je pense surtout que c'est une construction, en fait, qui est tout le temps en changement, de prendre conscience du fait qu'on est une femme et de son corps, de son intimité. Je pense que c'est tout le temps en évolution.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.